9h-11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
Bonjour Pauline Liétard.
Bonjour.
Vous êtes réalisatrice de documentaires, vous avez déjà signé des docs sur la haute fonction publique ou sur l'ONU, et vous signez un documentaire qui passe ce soir en deuxième partie de soirée sur TF1, Prostitution, ados en danger. C'est dans le cadre d'une grande soirée présentée par Roselmack. Le documentaire va suivre deux épisodes de la série Fugueuse, avec notamment Michael Youn, Sylvie Testu ou Fanny Cottençon, série réalisée par vous, Jérôme Cornuau, bonjour.
Bonjour.
On vous avait déjà reçu ici pour la série Peur sur le lac. Vous avez donc réalisé cette série Fugueuse, mais pas seulement, également adaptée, ça vient d'un format ou d'une série canadienne. Que raconte-t-elle et pourquoi vous a-t-elle intéressé cette série ?
Elle traite de la prostitution des mineurs et explique un peu tout le mécanisme et l'engrenage dans lequel une mineure peut tomber. Dans une famille où tout va bien, ils s'entendent parfaitement et malgré ça, tout d'un coup, le piège se resserre autour d'elle et elle rentre dans la prostitution.
En l'occurrence, c'est Léa, une ado sans histoire, mais tout d'un coup, elle rencontre un type.
Oui, dans le cas de la... Il y a plusieurs possibilités, on verra dans le documentaire qu'il y a des pistes différentes de tomber dans la prostitution. Nous, l'idée, c'était de tomber par la voie d'un piège amoureux qui lui est tendu. Elle pense que c'est sincère et au fur et à mesure, l'engrenage la saisit. Et ce qui est intéressant, c'est de voir sa capacité de déni et de s'opposer à sa famille au début en pensant à l'amour et ensuite réalisant la triste réalité.
Le déni, on l'entend même dans la bande-annonce de Fugueuse.
Ma prof de danse, elle m'a proposé un stage de dingue à Londres.
Oula !
Vous voyez pas que je suis en train de grandir ?
Si, mais tu nous mets devant le fait accompli. Franchement, Léa, c'est une sainte. Fais-lui confiance.
Je t'aime.
J'ai rencontré le petit copain de Léa.
Il a 26 ans.
T'étais où cette nuit ? Avec qui ?
Toute la famille est en bordel à cause de toi !
C'est tout le temps ma faute avec toi !
Tu restes ici, Léa !
Ça ressemble à toi, une fumée. Elle est sous son emprise complètement. Il manipule les jeunes filles, elle tombe amoureuse, ensuite il les pousse à se prostituer.
On va les retrouver.
Tu vois pas que t'as retourné le cerveau, là ?
Je l'aime. C'est l'homme de ma vie.
C'est l'homme de ma vie, dit Léa, on est dans le sujet, très amoureuse, elle ne voit pas la manipulation dont elle est victime, elle s'enfonce non seulement dans la violence, mais dans la prostitution. C'est un sujet marginal, la prostitution des mineurs, vous avez des chiffres, Jérôme Cornuau, je poserai la même question évidemment après à Pauline.
Les chiffres sont évoqués entre 5 et 10 000 adolescentes et adolescents en France, mais c'est des chiffres qui ont déjà 5-6 ans. Donc ils sont plutôt autour des 15 et 17 000 en France.
Pauline Liétard.
Il faut surtout regarder le nombre d'affaires judiciaires. En fait, c'est ça qui a explosé. Et là, c'est vraiment chiffré. En ces 5 dernières années, ça a augmenté de 70% le nombre de dossiers. Et on en voit très régulièrement dans les tribunaux autour de Paris, à Paris. Enfin, et même maintenant dans toute la France. Ouais.
Le problème qu'il y a, c'est que parfois, les filles ne se rendent pas compte qu'elles font quelque chose de mal qui va leur causer un préjudice énorme. La première fois, les proxénètes pour séduire les filles, ils font comme si elles étaient leur petite amie. Après, la manipulation, il y a la violence. Mais souvent, c'est ce qui frappe, la prostitution est volontaire.
Oui, c'est ça qui est assez sidérant quand on va au procès. On s'attend à voir des tonnes de plaignantes, des parties civiles constituées de ces filles victimes. Et en fait, il n'y a personne, même les avocats des associations s'en étonnent, parce qu'elles se considèrent comme complices ou en tout cas parties prenantes de ce business. Et effectivement, il y a énormément de manipulations. Ça commence par des histoires d'amour, comme on voit aussi dans la fiction. Et puis, il y a après un piège qui se referme avec de la violence, des menaces pour ne plus sortir du groupe, mais il y a aussi un peu le côté bande d'amis, ok on se prostitue mais on prend la drogue, on s'éclate entre amis, on va en boîte, on se paye des belles choses et c'est ça qui fait adhérer ces filles aussi.
Vous avez suivi Luna, elle a 17 ans, vous vous souvenez combien elle peut gagner en 24 heures ?
Nous le dit, 1 700 euros, et donc effectivement là elle essaie de s'en sortir et de chercher un job classique, sauf que quand on lui annonce le SMIC mensuel, elle se dit ben moi, c'est ce que je peux gagner en une journée, et même si c'est horrible, même si je me fais taper, violenter, elle a du mal à renoncer à cet argent facile.
Luna a 17 ans, mais parfois ça commence beaucoup plus tôt. Vous avez retrouvé Virginie, une ancienne prostituée qui a porté plainte contre un réseau, qui a réussi à s'en sortir, elle raconte.
Quand on a 14 ans ou 15, et qu'on commence déjà à faire ça, 14-15 ans, après on fait 16 ans, 17 ans, ça fait 2 ans qu'on fait ça, et après pour s'arrêter, c'est très 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 compliqué. Limite je dirais qu'il y en a qui ont perdu leur virginité dans ça, quoi. Et c'est pas comme ça qu'on voit les choses, quoi. C'est pas avec un client, avec un homme qui nous paye, et en plus qui reste que 30-20 minutes, et qui nous passe de l'argent, on fait des choses qu'on n'a pas envie de faire, des choses qu'on s'est toujours dit qu'on ne ferait jamais. C'est pas une vie de faire ça.
Pauline Liétard, je parlais de votre documentaire, très grosse enquête, très gros travail. Combien de temps vous a-t-il fallu pour approcher tous ces témoins, notamment Luna, 17 ans ?
Je dirais environ 7 mois. C'est un travail très très long parce qu'effectivement, comme elles sont sous emprise, elles n'ont aucun intérêt, aucune envie de parler. Et même quand elles commencent à s'ouvrir, elles ne viennent pas au rendez-vous, on se fait planter des tas et des tas de fois avant de pouvoir vraiment les voir et avoir leur témoignage. Donc c'est très dur.
Ouais. Pour le rendez-vous, vous faites comment ? Vous passez par Internet ? Parce qu'il faut dire que ça a l'air d'être un supermarché, Internet.
Oui, notamment des plateformes, on peut les citer, mais comme Instagram, et après ça débouche sur des conversations sur Snapchat, etc. Aussi un petit peu dans la rue, mais effectivement c'est beaucoup beaucoup sur les réseaux. Et puis après, parfois via les parents ou par des amis d'amis qui savent que tel ou tel fils se prostitue.
Alors il y a un témoignage très fort parce qu'une jeune fille se prostitue alors qu'elle habite encore chez sa maman. Vous avez même réussi à filmer des scènes de vie dans la cuisine avec sa mère, un petit enfant en bas âge, je ne sais pas si un petit garçon, une petite fille, il est flouté. Et il y a même une séquence dans laquelle sa maman dort sur le canapé du salon en face de la porte d'entrée de chez eux pour empêcher sa fille de sortir au milieu de la nuit pour rejoindre les proxénètes et faire des passes. Vous avez vu cette séquence,
ouais, Jérôme Cornuau ? C'est terrifiant. C'était terrifiant.
On est d'accord.
Ah ouais, c'est terrifiant.
Comment vous avez réussi à obtenir ça, que les deux personnes se laissent filmer ? Et est-ce que la fille savait que vous faisiez, que vous tourniez un documentaire sur la prostitution ou pas du tout ?
Nous, on est en contact avec sa maman qui avait envie de témoigner de sa détresse parce qu'évidemment, elle est aidée par une avocate dans sa démarche, comme on le dit à la fin du documentaire. Elle a porté plainte contre la bande qui a séquestré sa fille à un moment, enfin, il y a 2 ans. Donc, elle avait envie de témoigner de ça aussi pour montrer qu'il y avait beaucoup de parents concernés, que ça peut arriver à tout le monde, puisque c'est voilà, une famille où, a priori, tout va bien. Mais en fait, non.
Mais est-ce que la fille savait que vous tourniez un reportage là-dessus ou est-ce qu'elle pensait que vous tourniez juste un reportage sur sa maman ou la vie d'une famille ?
Alors, on lui a dit, après, je ne sais pas dans quelle mesure elle l'a intégré, sachant qu'il y a un gros non-dit dans la famille autour de ce sujet-là.
Bien sûr, il y a un déni.
Il y a un déni. Elle était censée nous parler aussi. Et puis, elle a dit, oh non, je vais me coucher. Et puis après, elle ne voulait plus nous parler parce qu'en fait, elle n'en a jamais parlé à sa mère. Donc, en parler à la télévision, c'est encore plus compliqué. Mais sa mère lui a dit, oui, que je pense qu'elle lui a bien expliqué. Mais après, voilà, ce n'était pas évident.
Ça s'appelle « Prostitution ado en danger ». C'est un documentaire qui suit ce soir fugueuse 2 épisodes de la série signée Jérôme Cornuau. Le doc, c'est signé Pauline Liétard. Ils sont avec nous. Culture Média continue.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie du réalisateur Jérôme Cornuau, fugueuse série qui passe ce soir à 21h sur TF1, série orientée et tournée vers la prostitution des mineurs. Série suivie d'un documentaire « Prostitution ado en danger » signé lui, Pauline Liétard. Je voudrais parler de la manipulation et parfois c'est beaucoup plus grave, Pauline Liétard. Il peut y avoir du kidnapping de la part d'un réseau de proxénètes. Et croyez pas que tout cela n'arrive que dans les grandes villes, en région parisienne, à Lyon ou à Marseille, non. Vous avez trouvé un cas dans une petite ville de Bretagne, une fille de 17 ans qui est dans un bar avec sa copine. Elle croise un type qui est sympa, qui leur parle, avenant, souriant. Il leur offre à boire, on sait pas ce qu'il y a dans les verres. Tout d'un coup, elle tombe dans les pommes, les deux ne se souviennent plus de rien, un témoignage très fort.
On s'est réveillés, on était dans une chambre d'hôtel, et avec plus rien, plus de papier, plus de téléphone, plus d'affaires. Après, le cauchemar a commencé.
Qu'est-ce que vous avez dit à ce moment-là quand vous êtes réveillée ?
Qu'on devait prendre de la cocaïne et qu'on devait être testé par lui. Pour voir si on pouvait faire des clients.
Ça veut dire quoi tester ?
Il nous a violés. Il nous a forcés à avoir des rapports avec lui.
Élise est séquestrée dans un hôtel en banlieue parisienne, à 400 km de chez elle. Le proxénète publie une petite annonce sur Internet pour vendre le corps de la jeune fille.
Il y avait sa copine qui nous maquillait, qui nous habillait, qui nous disait quoi faire. Ça a défilé, défilé, défilé. Donc, toute la journée, on se droguait, on était forcés, on était forcés. On devait faire 500 euros par jour. Si on ne le faisait pas, ils nous tapaient ou nous violaient encore.
C'est votre voix qu'on entend, Pauline Liétard. Évidemment, les voix ont été masquées pour pas qu'on les reconnaisse. Combien de temps le calvaire a-t-il duré ?
Pour elle, c'est plusieurs mois. Quoi. Ça a duré plusieurs mois jusqu'à elle a essayé de s'échapper une première fois. Il les a retrouvés et puis elle a réussi enfin à s'échapper définitivement. Mais elle va en avoir pour toute sa vie en termes de traumatisme, tellement ce qu'elle a vécu était barbare. Quoi.
Après, il y a eu un procès. Le proxénète a été retrouvé. Il a pris 15 ans de prison ferme. Évidemment, vous le dites, pour elle, la santé s'est dégradée. Pour la jeune fille, elle va payer ça à vie. Vous avez réussi à filmer après un autre procès ou plutôt a approché une bande de criminels, une bande de proxénètes. À ma connaissance, c'est une première. J'avais jamais entendu ces gens-là parler. Ils sont très jeunes au procès. Et entre deux interruptions, ils rigolent. On a l'impression qu'ils réalisent pas ce qu'ils sont en train de faire et ce qu'ils ont fait.
Oui, parce que effectivement, comme les filles en plus là ne viennent pas à la barre, ils se rendent pas compte qu'ils leur ont fait du mal en les faisant enchaîner des passes, etc. Et puis là, c'est un réseau qui est assez structuré avec des chefs de réseau, puis des lieutenants qui font office de chauffeurs, gardiens, gardes du corps. Et c'est la bande de copains qui fait travailler les filles, qui profite de l'argent et qui rigole. Et souvent, ils viennent du trafic de stupes et ils se sont rendus compte que c'était plus rentable.
On va en parler justement de la différence entre le trafic de stupes et la prostitution. Leur mot d'ordre, c'est l'efficacité. On va écouter l'un d'entre eux qui explique l'organisation, on est carrément dans une PME.
Chacun avait un rôle bien défini, il y avait la logistique, il y avait des secrétaires qui prenaient en charge la téléphonie et les messageries pour faire venir les clients dans les appartements. Il y avait le rôle aussi de bodyguard, ceux qui devaient rester avec les filles pour au cas où il y avait des clients qui ne payaient pas leurs prestations, ou par exemple les chauffeurs qui devaient emmener des filles d'un point A à un point B pour les clients en extérieur.
Et il y a un policier qui vous explique la balance entre le risque et le bénéfice, suivant que les délinquants travaillent autour de la prostitution plutôt qu'autour de la drogue. Pourquoi est-il plus aisé de travailler comme proxénète plutôt que comme dealer ?
Pour plusieurs raisons, mais déjà quand on est en voiture avec trois filles maquillées, on n'est pas en flagrant délit de quoi que ce soit, alors que quand on transporte de la drogue dans sa voiture, ouais, on est plus à risque. La drogue, c'est des territoires tenus, comme on voit en plus avec des guerres du territoire assez sanglantes. La prostitution, c'est très mobile, on peut changer d'hôtel, de zone. Là, on a vu des réseaux qui partaient dans le sud quand c'est les vacances et qui changent de région, en fonction des opportunités. Et les filles, en plus, ne vont pas les balancer. Donc, Pour l'instant, ils sont plutôt gagnants à faire ce genre de trafic, de crime, quoi.
Mais... Jérôme Cornuau dans Fugueuse, il est question de prostitution, on l'a dit. C'est à la fin de l'épisode 3 seulement. Je ne peux pas tout raconter. C'est la raison pour laquelle on ne passe pas d'extrait ici. C'est un choix dans une série qui dure seulement 6 épisodes. Pourquoi ça arrive à la fin ?
Non, ça arrive au milieu, mais parce que...
Au milieu, pardonnez-moi. Oui, 3 sur 6, c'est au milieu. Vous avez raison.
Non, mais c'est parce qu'on prend le temps. C'est l'avantage d'une série, c'est qu'on prend le temps de suivre toutes les étapes. Donc chaque épisode, il y a un pas qui est franchi, une nouvelle marche, une nouvelle marche, une nouvelle marche, et on finit comme dans le reportage, dans un truc d'abattage de gros, où elle est complètement violentée, droguée, et donc c'était de disséquer chacune des démarches, en fait, chaque étape, et comment elle s'éloigne de plus en plus de sa famille, et étudier du point de vue des parents et du point de vue de la jeune femme. Comme ça, on a vraiment, et en même temps, étudier les dommages collatéraux dans toute la famille.
Question classique, qu'est-ce qu'on peut dire dans une fiction qu'on ne peut pas dire dans un reportage ? Déjà, je dois dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de témoignages dans votre reportage, mais évidemment, les visages sont floutés, les voix sont trafiquées. Qu'est-ce qu'on peut dire dans une fiction qu'on ne peut pas dire dans un sujet, Jérôme Cornuau ?
C'est-à-dire que c'est faire exister, aller vers les purs et vers un traitement naturaliste et faire exister des personnages en s'inspirant de la réalité, en fait. Et un reportage, on va être immédiatement choqué par la violence, on n'imagine pas ça. La fiction permet de comprendre comment les personnages peuvent arriver là-dedans. C'est un vrai passage de relais de l'un à l'autre, je trouve.
Justement, je vais passer le relais de l'un à l'autre. Est-ce que chacun a vu le travail de l'autre ? Est-ce que vous avez vu le reportage de Pauline Liétard, Jérôme Cornuau ?
Oui, je l'ai vu malheureusement après. J'étais assez content parce que la série suit tout de même beaucoup la réalité.
Ouais. Vous vous êtes dit, j'ai raté quelque chose ou j'avais pas vu cet aspect-là ?
Non, parce que nous, on est parti sur une famille...
Une famille heureuse, alors que dans les reportages, il y a quasiment presque uniquement des mères seules.
Ouais. Oui, c'est sûr que c'est... On le voit dans les études, beaucoup de familles monoparentales qui sont concernées, beaucoup de familles où il y a de la violence conjugale, de la violence sur les enfants. Après, c'est sûr que ça peut arriver à toutes les familles s'il y a une vulnérabilité de l'enfant, mais il y a une prédominance des familles.
Même chose, vous avez vu
Et
alors
moi, c'est sûr qu'en voyant la fiction, ça fait plaisir de voir les scènes de famille, de vie de famille du quotidien que moi, j'aurais adoré filmer, mais qui sont très compliquées à filmer, surtout dans un temps quand même relativement court. Et je trouve que c'est très intéressant de montrer cette pente glissante et qui montre vraiment comment on peut aller vers ça.
Et moi, ce que je trouvais absolument passionnant, c'est de faire ce qu'on a fait aujourd'hui pour la première fois, d'avoir une réalisatrice de documentaire et un réalisateur de fiction sur le même sujet et qui sont peut-être les deux versants de la même pièce. On ne peut pas tout montrer à la télévision. Merci beaucoup Pauline Liétard, merci beaucoup Jérôme Cornuau. Je rappelle Fugueuse, ce soir à 21h sur TF1, suivi du doc Prostitution, ado en danger. Merci d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup.
Culture Média continue après le rappel des titres de 10h. Vous allez retrouver les télescopages de Bruno Donnet aujourd'hui. Il a tout compris à la crise des sous-marins australiens. Vous verrez comment et pourquoi. Notre invité, c'est l'humoriste et comédienne Claudia Tagbo pour la nouvelle série OCS qui s'appelle Frérot. Et puis dans les indispensables, Nicolas Carreau qui va nous faire découvrir un roman en lice pour le Renaudot et Margot Barallon nous donne ses impressions sur la série très attendue Germinal. L'humoriste et imitateur Marc-Antoine Lebray en fin d'émission évidemment. À tout de suite sur Europe 1.
Jusqu'à 11h, Europe 1 Culture Média.